Mais le plus important, frères et sœurs, c'est quand même l'attitude de notre cœur. Dieu, au-delà des attitudes qu'on est obligé d'avoir, qui font que on est distancé les uns les autres, on ne peut plus serrer dans les bras, on ne peut plus s'embrasser, mais ce qui est important, c'est l'attitude de notre cœur aux yeux de Dieu. C'est l'expression, et ce matin, alors qu'on était en train de louer Dieu, eh bien, on est en train de louer l'Éternel, le Dieu glorieux, grand, merveilleux. Quand je réalise l'enfant de Dieu que je suis, celui qui a la possibilité de venir à ses pieds, comme on l'a fait ce matin, ouvrir mon cœur, pas seulement mon cœur d'ailleurs, l'être entier que je suis, et que Dieu agrée, enfin, je ne mérite rien, vous non plus d'ailleurs, mais voilà, c'est extraordinaire. Alors, voilà, je suis en train de m'égarer là, on se retrouve en tout cas mardi pour notre réunion de prière avec la Sainte Cène. Ce matin, je vais vous partager des choses que Dieu a touché mon cœur cette semaine, c'est ma façon de dire, Dieu me touche, mais je crois que vous comprenez ce que ça veut dire, parce que Dieu vous touche aussi par sa parole. J'avais prévu de vous partager quelque chose, et puis finalement, je vous partage autre chose ce matin. Certainement que ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je le ferai dimanche prochain. Mais peu importe. Alors que cette semaine, je suis mon plan de lecture biblique, je médite ce que Dieu me dit, et puis c'est en train de se préciser dans mon cœur. Ce que je vais vous partager ce matin, c'est pas forcément quelque chose forcément toujours d'agréable à entendre. Mais vous savez, quand Dieu nous dit des choses qui nous semblent désagréables, c'est jamais pour nous faire du mal. C'est toujours pour notre bonheur, c'est toujours pour qu'on soit dans le meilleur, parce que Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Ça me rappelle d'ailleurs le fait que quand Jésus était avec ses disciples, à un moment donné, il va dire ceci, vous connaissez ce texte, si vous ne mangez de ma chair, vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez... participant au royaume de Dieu. Vous ne pouvez me suivre, en fait, vous ne pouvez être mes disciples, vous ne pouvez pas. Si. Et à ce moment-là, les disciples qui étaient là avec lui, les gens qui suivaient Jésus, lui ont dit, mais, oh Seigneur, c'est ta parole est trop dure, on ne peut pas l'écouter, on s'en va. Et puis, seuls quelques, les disciples qu'on retrouve dans la parole de Dieu, sont restés avec Jésus. Alors, c'est bon quand Dieu nous parle et on doit écouter ce que Dieu nous dit. Et vous le savez bien parce que je vous l'ai partagé déjà plusieurs fois. Dieu avait mis sur mon cœur pour cette année, le thème principal de cette année, le domaine de la joie. Et Dieu désire nous emmener dans la joie, de toute façon, ça c'est sûr. Il ne veut pas qu'on soit malheureux. Et alors que j'étais touché par les textes que que j'étais en train de méditer cette semaine, notamment, je vais peut-être vous le lire tout de suite, ce texte d'ailleurs, c'est un texte, j'ai oublié de vous dire le titre de ce message, c'est à cause aussi, le titre vient aussi à cause du calendrier, on a le calendrier méditation quotidienne à la maison, et puis donc le texte qui nous était donné pour le jour du 21 octobre, ce texte m'a parlé, et puis j'aimerais vous partager d'ailleurs. Et donc, le titre de mon message, c'est l'éphélière. C'est ce qui est marqué, merci Sébastien. L'éphélière. Alors, vous connaissez cette publicité qui parlait de l'effet qui se coule. Alors, ce matin, moi, c'est pas l'effet qui se coule, mais l'éphélière, et l'éphélière a un impact important dans notre vie. Alors, ceux qui ont les calendriers méditation quotidienne, vous l'avez lu. Et pourquoi je vous partage ça ce matin? Parce que, cette semaine, donc, notamment dans mes lectures, je lisais le livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel, d'ailleurs, je vous encourage, peut-être pas tout lire le livre d'Ézéchiel, mais notamment le chapitre 33, je vais vous en lire un extrait en tout cas, quelques versets. Et dans Ézéchiel, chapitre 33, je vais vous lire tout de suite les versets 7 à 9. Ces versets 7 à 9 nous disent ceci. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Alors moi, je ne suis pas Ézéchiel, hein. Mais il me semble que chacun d'entre nous, eh bien, en tout cas que Dieu fait de nous des sentinelles. Et donc, moi, Jean-Bernard, je suis aussi comme vous une sentinelle. Et même si ce texte s'adressait à Ézéchiel à ce moment-là, eh bien, moi, je veux le prendre aussi pour moi parce que je crois que c'est juste. Et j'aimerais que vous puissiez le prendre pour vous aussi. Mais en tout cas, écoutez ce qui est dit ici. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir. C'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, eh bien ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, alors il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Donc, je disais, ce texte me parlait et j'étais en train de réaliser. Et moi, j'aimerais vous le partager parce que mais je crois que, encore une fois, je répète, hein, je crois que c'est quand même notre responsabilité aujourd'hui aux uns et aux autres. Mais c'est peut-être ma responsabilité particulière, moi qui suis le pasteur de cette communauté. Donc, je dois partager ce que la parole de Dieu dit. Ici, Dieu va dire à Ézéchiel, tu dois écouter bien sûr les paroles de ma bouche et tu dois les transmettre. Alors ce matin, moi Dieu m'a percuté cette semaine, eh bien je veux vous partager, mais encore une fois je vous répète, hein, ça fait peut-être la troisième fois que je le dis ce matin, mais je crois que chacun d'entre nous on a cette responsabilité là quand même. Alors je vous disais, je vous reparlais de cette histoire de joie, et je crois vraiment que Dieu veut qu'on ait la joie. Mais, donc, ce que je vais vous dire là tout de suite, certainement qu'on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé, et puis, voilà. Mais, dans mon vécu et dans votre vécu à chacun d'entre vous, il y a forcément des sujets, des choses que vous vivez, eh bien, qui vous procurent du plaisir et de la joie. Mais, ce qui vous procure du plaisir et de la joie, eh bien, est-ce que c'est quelque chose que Dieu approuve ou quelque chose que Dieu désapprouve ? Waouh ! J'aurais certainement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste une première interrogation que je pose là. Alors, est-ce que quand je fais quelque chose qui me donne du plaisir, alors est-ce que cela est forcément juste et bon ? Ma réponse, mais certainement, si vous êtes honnête, c'est de dire non. Enfin, parce que c'est pas tout ce qui me procure de la joie et du plaisir. En tout cas, c'est peut-être bon à mon sens, dans mon humanité et dans ma nature adamique. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu approuve. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément bon pour moi. Juste, je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est toujours pareil. Les exemples, ça vaut ce que ça vaut. Mais celui qui se drogue, par exemple. Vous savez que quand il se drogue, moi, je ne me suis jamais drogué. J'espère jamais. Hein. Mais celui qui se drogue, ce que j'entends, hein, ce que je lis, des témoignages, c'est que ça leur procure énormément de plaisir dans un instant T, on va dire. Et ça leur procure tellement de plaisir qu'ils... Ils veulent recommencer et il y a même les addictions. Enfin bon, voilà. C'est juste un exemple. Hein. Mais, alors, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais cet exemple, je peux. Donc, celui qui se drogue, il va avoir du plaisir. Puis en même temps, il est en train de se détruire. Donc, ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir que c'est pour lui quelque chose de bon. Et alors, certains, par exemple, voilà, il y a des natures comme ça, ils prennent plaisir à faire du mal aux autres. Ce n'est pas parce que tu fais du mal aux autres, ce n'est pas parce que ça te fait plaisir que c'est quelque chose qui est bien. Ou alors, on pourrait prendre des tas d'exemples. Mentir. Voilà, bref. Alors, Ce matin, l'histoire, quand je parle de l'effet lierre, on va tout de suite, je vais vous lire le calendrier, enfin le commentaire qui est donné, mais en introduction, avant cette lecture, et en fonction de ce que je viens de vous partager là, j'aimerais qu'on puisse s'interroger les uns et les autres, parce que devant moi qui suis enfant de Dieu comme vous, je pense que devant Dieu, c'est quand même quelque chose d'important de se poser la question, est-ce que mon péché m'attriste ? Mon péché m'attriste-t-il ? Alors évidemment, et j'y reviendrai un petit peu, qu'est-ce que le péché ? Alors, je vais y venir. Mais dans un premier temps, je vais vous lire ce texte qui était dans le calendrier. Et puis, certainement, vous comprendrez forcément un petit peu un certain nombre de pensées qu'on va partager ce matin. Je vais essayer d'être très rapide, d'ailleurs. Le lierre est très ingénieux pour conquérir les arbres. Ses racines crampons, et peut-être que tu peux mettre la première diapo, Sébastien. Ses racines crampons se glissent dans les anfractuosités des troncs. Des poils racinaires s'adaptent parfaitement au support. En outre, les racines sécrètent une colle forte contenant des nanoparticules qui les soudent à l'arbre, puis le dessèchement des poils s'accompagne de réactions physico-chimiques complexes qui augmentent encore l'adhésion au support. Ainsi en est-il du péché. Il s'accroche par ruse et malice à celui qui accueille le péché, à celui qui l'accueille, pardon. Le péché, comme le lierre, peut mettre des mois et des années pour s'incruster, se développer et recouvrir complètement sa victime, lui voler la lumière, l'étouffer. À chaque promenade le long des canaux alsaciens, j'observe que la quasi-totalité des arbres brisés ou abattus est couverte de lierre. C'est que le feuillage abondant du lierre offre une forte prise au vent. C'est ainsi que les tempêtes de la vie font choir ceux qui se sont laissés enlacer par le péché. Orgueil, critique, rancune, colère, haine secrète, pensée impure, etc. Comme le lierre, le péché doit être coupé à la racine ou mieux, déraciné. Le moyen radical d'extirper le péché est une sincère repentance, une confession courageuse, des égarements. Celui qui se cache des transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà ce texte qui était donné dans le calendrier du 21. Et alors, sur la photo que vous voyez là devant, vous savez quoi ? C'est un arbre qui est au fond de mon jardin. Et alors, vous voyez, il y a le lierre qui est là. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque année, début d'été, je m'en vais puis j'enlève tout le lierre. Enfin, qui grimpe sur l'arbre, là, vous voyez. Je fais tous les ans. Et donc, je l'avais fait cette année. Et là, j'ai pris la photo hier. Le lierre, il est reparti. Hein ? Et comme on l'a vu comme on l'a entendu plutôt dans ce petit texte, si tu peux mettre la photo suivante, eh bien, j'ai pris une photo qui grossit. J'ai arraché le lierre que vous voyez, vous verrez la photo tout à l'heure. Mais voilà, il y a dans le lierre, effectivement, et ce n'est pas si simple que ça d'arracher tout le lierre. Hein. Et pourquoi ? Parce que justement, ce sont des minuscules fibres qui viennent s'accrocher. Et ce n'est pas facile de l'enlever. Et si tu peux mettre la photo suivante, voilà, ça c'est toujours dans mon jardin. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez du lierre. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre ? On ne voit plus que le lierre. Et vous savez quoi ? Derrière ce lierre-là, il y a un mur. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. Le mur, on le voyait quand on est arrivé, on achetait la maison en 1985. Et le mur, enfin, il y avait un mur. Aujourd'hui, on ne voit plus le mur, on ne voit que le lierre. Pourquoi ? Parce que autant j'arrache le lierre autour des arbres, mais le lierre sur ce mur-là, je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, vous verriez le tronc, ça fait des trous énormes. Et si je suis même quasiment sûr que si je voulais enlever le lierre aujourd'hui de ce mur, certainement je démolirais mon mur, quoi. Et alors, pourquoi je suis en train de vous dire ça? Ben, face à ce que on a lu de cette intro par rapport au calendrier. Alors, si tu peux lancer la diapo suivante, Sébastien. Alors, hier, c'est le même arbre en haut et en bas, hein, mais j'ai enlevé le lierre. Hein, c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Le lierre. L'effet lierre. Frères et sœurs, qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Eh bien, c'est que si je laisse ma vie, enfin, le lierre, enfin, il est comme le péché. Alors, dans la Bible, on ne retrouve pas cet exemple-là. Dans la Bible, on va dire que le péché, il est assimilé à la lèpre. Alors, la lèpre, nous, aujourd'hui, on ne la connaît plus. Hein, ce n'est plus une maladie qui est courante, en tout cas, pas dans nos régions. Mais par contre, du lierre, je ne sais pas si vous en avez dans votre jardin. Hein, mais quelque part, c'est un peu comme la lèpre. C'est une vraie calamité, quoi. Et frères et sœurs, si je vous parle de ce texte ce matin, c'est que la nature nous donne des leçons. Et l'effet lierre, eh bien, ça doit être une leçon pour nous. J'aimerais que vous puissiez, c'est pour ça que vous aimez les photos, que vous puissiez vous en rappeler que enfin, ce lierre est comme l'image du péché. C'est-à-dire que ça commence tout doucement. Hein, donc, par exemple, si vous prenez la photo du haut avec le lierre sur l'arbre, bon, il n'y en a pas encore tant que ça, parce que je vous l'ai dit, j'en avais arraché, j'avais enlevé tout le lierre dessus, début d'été, quoi. Mais si je l'avais laissé, l'arbre, il serait comme le mur, quoi. On ne verrait plus le tronc. Et frères et sœurs, le péché, pour nous, c'est exactement la même chose. Le péché, on ne doit pas le laisser en nous. Ou je vais dire autrement, si je ne fais rien dans ma vie avec le péché, si je ne fais rien, si je vis ma vie bon an, mal an, comme on dit, tranquillement, je laisse les choses courir, si je ne prends pas sur moi d'arracher le péché, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ma vie, au lieu de refléter Jésus, eh bien, elle va refléter, comme le mur qui est recouvert du lierre, eh bien, ce que va refléter ma vie, ben, ça ne sera pas la vie de Dieu, mais ça sera le péché en réalité. Parce que je vais vivre, et c'est une des raisons pour lesquelles je dis aujourd'hui, en tout cas, on peut dire, et moi je le proclame, parce que je crois que c'est juste, le fait que si je vis comme le monde aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas me considérer comme un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, eh bien, je dois être différent du monde. Je dois avoir un comportement qui est différent du monde qui nous entoure. Dans le monde qui vous entoure, frères et sœurs, aujourd'hui, mentir, c'est quelque chose de normal. Enfin, si tu mens pas, enfin, tu te fais avoir, quoi. Enfin, c'est ce qu'on te dit. Par exemple, je prends juste un exemple. Je ne peux pas ressembler au monde, frères et sœurs. Je dois me démarquer du monde. Ce n'est pas possible de ressembler au monde. Alors, tout à l'heure, je vous posais cette question. Est-ce que le péché m'attriste? Qui d'entre nous peut dire « je ne pêche jamais » Si l'un d'entre vous levait la main ce matin, ben, je vous dirais « vous êtes un menteur ». Parce que, de toute façon, c'est la Bible qui me le dit. Tous ont malheureusement, et je le dis pour moi aussi, malheureusement, eh bien, il m'arrive de pécher. Est-ce que mon péché m'attriste? Ou est-ce que finalement je me dis, bah, après tout, je vis, hein, je pêche, bah, tant pis, hein, je pêche. Je suis un pêcheur, donc je pêche. Est-ce que je prends... Si je fais ça, je fais quelque chose de terrible. Si ma vie ressemble à la vie du monde, eh bien je suis en train de vivre une vie qui est terrible. Pourquoi je vous dis ça? Je reviens à l'histoire du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, alors on pourrait y donner plusieurs définitions. Il y a certainement plusieurs définitions. Et enfin, en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, alors, bien sûr, il y a des péchés. Si je tue quelqu'un, je sais que je suis en train de commettre un péché. Si je commets l'adultère, eh bien, je, voilà, nous, les enfants de Dieu, on sait que dans le monde, non, on a le droit, hein, ce n'est pas un péché dans le monde. Mais nous, enfin, en tant qu'enfants de Dieu, bah, pour nous, c'est un péché commettre l'adultère. Si je mens à quelqu'un, ben je, voilà, je suis en train de pécher. Si, enfin, etc., etc. Mais péché, finalement, c'est même plus que ça. Enfin, ça va plus loin que là. Parce que une des définitions qui est donnée, par exemple, péché, c'est manquer la cible. Alors, on me dirait, quelle cible ? Alors, j'aimerais juste prendre une définition que Jésus lui-même, enfin, non, pas que Jésus a donnée, mais que l'apôtre Jean a donnée dans 1 Jean chapitre 3. Hein, je vais vous lire ce verset. Et je vais vous lire quelques versets. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 9. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, eh bien, c'est la violation de la loi de Dieu. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché, il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, donc si quelqu'un demeure en communion avec Jésus, eh bien, il ne continue pas à pécher. Moi, je dirais autrement aujourd'hui, je dirais, il ne peut pas vivre comme le monde. Ce n'est pas possible. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Mes enfants, écoutez bien, ne vous laissez pas égarer sur ce point par personne. Ne vous laissez pas égarer par personne. Est-ce que je peux dire, y compris par vous-même, y compris par votre nature adamique, qui va trouver du plaisir en des choses que Dieu n'agrée pas, par exemple. Et juste celui qui fait ce qui est juste, qui est juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu, c'est ce que dit ce verset. Tout comme Christ lui-même est juste en accomplissant la volonté de son Père. Et là, Jean va même aller très loin en disant « Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable. » Celui qui s'adonne, c'est-à-dire celui qui vit le péché, puis ça ne lui fait rien. Ce n'est pas grave. Je pêche, bah, tout simplement parce que bah, c'est, voilà, c'est ma nature. Je suis dans le monde et puis voilà, le monde, bah, il m'influence. C'est vrai que le monde nous influence, vous savez. Il m'influence et puis, bah, vous savez, le monde, l'impact du monde, il ne faut pas, faire comme si le monde ne nous impactait pas. Ce serait terriblement dangereux. Parce que finalement, si on fait comme si le monde ne nous impacte pas, ben on va trouver les choses que le monde fait finalement normales, comme la norme que Dieu désire. Mais Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ce que Jésus nous dit dans sa parole, c'est ça sa volonté. Frères et sœurs, celui qui s'adonne au péché, celui qui vit sa vie sans que le péché l'attriste, eh bien, c'est un enfant du diable. Je dis de verser autrement, mais je ne pense pas me tromper dans l'idée qui est donnée par l'apôtre Jean ici. Or, le Fils de Dieu est précisément venu sur terre pour détruire l'œuvre du diable. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui, et il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Voilà la réalité. Voilà les deux aspects. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chacun d'entre nous, on ne doit pas laisser ce lierre du péché, enfin, non, on ne doit pas, même pas le laisser cohabiter avec nous. Bien sûr qu'il nous arrive de pécher, mais quand je pêche, frères et sœurs, je dois aller au pied du Seigneur et vivre une vraie repentance. Si je ne fais pas ça, je suis celui qui est en train de laisser le lierre pousser, puis à un moment donné, ma vie, encore une fois, elle sera tellement recouverte qu'on ne verra plus. J'aurai disparu, je serai derrière le lierre. J'aimerais vous lire un autre verset dans Jean chapitre 12, Alors, tout au début du chapitre 12, enfin non, pas tout au début, déjà bien au milieu, Jésus, enfin il est dit que Jésus, malgré tous les miracles qu'il a fait, il a fait plein de miracles, Jésus, eh bien, certains ne croyaient pas encore en lui. Et Jésus va dire au verset 44, à partir du verset 44, si quelqu'un m'accorde sa confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais aussi en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire au Père, hein, qui me contemple, contemple aussi celui qui m'a envoyé. Si mes yeux sont fixés sur Jésus, et aujourd'hui, est-ce que c'est ce que vous faites, frères et sœurs? Est-ce que nos yeux sont fixés sur Jésus? Est-ce que c'est la motivation qui me fait avancer dans la vie? Parce que si je fais cela, alors je suis aussi en train de contempler le Père. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et au verset 46, il va dire, c'est pour être la lumière du monde que je suis venu dans ce monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne l'applique pas, ce n'est pas moi qui le jugerai. Écoutez bien. Parce que là, c'est un des textes que j'ai lu cette semaine dans mes lectures, dans mon plan de lecture, et qui me parlait, en tout cas, en parallèle avec ce que je suis en train de vous échanger. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Ici, Jésus dit aux pécheurs, et aux pécheurs que je suis, aux pécheurs que tu es, ou à l'enfant de Dieu que tu es, il est en train de te dire que ce n'est même pas lui qui va te juger. Mais qu'est-ce qui sera notre juge? Alors écoutez bien. Alors je relis. Si quelqu'un entend ce que je dis et ne l'applique pas, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, mais c'est pour le sauver. Par contre, écoutez bien le verset 48 ici. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai enseignée. Elle le jugera et le condamnera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, c'est le Père lui-même dont je suis l'envoyé qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devais le dire. Or, je sais qu'obéir à ce qu'il me commande, c'est avoir la vie éternelle. Aussi, lorsque je parle, je dis seulement ce que le Père m'a transmis et je le dis comme il m'a ordonné de le dire. Je reviens sur ce verset 48. Qu'est-ce que me dit ce verset 48? Il est en train de me dire qu'aujourd'hui, je sais quel sera le jugement avec lequel je serai jugé. Et quel sera le jugement avec lequel je serai jugé? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. C'est les enseignements de Jésus. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est être en dehors de ce que Jésus dit, de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein, quand dans l'apôtre Jean va dire le péché, par définition, eh bien, c'est la violation de la loi. Or, la loi, elle est en Jésus. Les paroles que Jésus nous dit. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça ce matin? Simplement, je suis en train de vous dire à quel point, frères et sœurs, c'est une importance vitale pour notre vie aujourd'hui et aussi pour notre vie éternelle, de connaître les enseignements que Jésus nous donne. De s'imprégner, plutôt que de nous laisser imprégner par l'odeur du monde, eh bien, on doit se laisser imprégner par l'odeur de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Jésus? Est-ce que tu sais ce que Jésus te dit, ce que Jésus nous dit dans sa parole? Frères et sœurs, moi, personnellement, j'ai besoin de la lire et de la relire et de la relire. J'ai besoin de venir à ses pieds et puis dire, Seigneur, par ton esprit, viens graver en moi ta parole. Je ne veux pas me laisser influencer par le lierre du péché. Et le lierre du péché, je peux l'enlever par l'eau de la parole. Je peux me laisser purifier par l'eau de la parole. Ça, c'est aussi un autre texte. Ce texte de Jésus me semble important. Je vois qu'il est déjà 11 heures. Je vais essayer d'aller vite. Frères et sœurs, je sais qu'on est sauvé par grâce. Je suis sauvé par grâce. C'est-à-dire que c'est pas, je ne serai jamais sauvé par mes propres efforts. Mais là, il y a quand même quelque chose qui attire mon attention parce que Jésus va dire que celui qui méprise, je peux penser à être sauvé par grâce, mais sauvé par grâce ne m'autorise pas à mépriser ce que Dieu dit et ce que Dieu m'enseigne. Autrement dit, si je prends pas en compte ce que Dieu enseigne, comment je dois être, comment je dois me comporter, et quand je prends en compte ce que Jésus m'enseigne dans les évangiles, par exemple, mais dans toute sa parole, et que je prends pas en compte cela, mais ou que je laisse, comment je vais dire ça, que c'est pas la priorité de ma vie. Est-ce que je ne suis pas en train de mépriser ce que Dieu me dit? Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 12, peut-être que tu... Ben voilà, merci Sébastien. Si quelqu'un entend ce que je dis et ne l'applique pas, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Hein, c'est le même texte que Jean. Hein. Celui donc qui me méprise, ne tient pas compte de mes paroles, a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai enseignée, elle le jugera et le condamnera au dernier jour. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est attirer votre attention, frères et sœurs, sur l'effet lierre. Le péché est celui qui est tellement, à cause de notre nature adamique, hein, est tellement, c'est tellement facile de le laisser nous entourer, de le laisser faire partie de notre vie, finalement. Je vais le dire autrement, je veux dire, si on n'y prend pas garde, eh bien, on se laisse envahir et puis après, on est comme la photo du mur de tout à l'heure. Il n'y a plus que le péché qui domine notre vie. Et si c'est ça, frères et sœurs, eh bien, on sait ce qui va arriver parce que Jésus... Alors, ce n'est peut-être pas très agréable à entendre, encore une fois, hein, quand Jésus dit que celui qui me méprise et ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge, hein, peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre ça. On préfère lire et entendre dire Jésus est celui qui est mort pour nos péchés à notre place. Il est notre sauveur. Puis c'est vrai aussi, hein, bien sûr. Je suis sauvé par grâce. Il me fait grâce. Bien sûr, c'est vrai. Jésus me fait grâce. C'est une vérité. Mais ce texte de Matthieu, c'est aussi une vérité. Je ne peux pas faire comme si elle n'existe pas. C'est cette parole même que j'ai enseignée. Elle le jugera, elle le condamnera au dernier jour. Moi, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais ça me semble qu'il n'y a pas besoin d'explication. C'est clair, c'est tout. Alors, frères et sœurs, le cœur de Dieu est le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu ne change pas, il ne changera jamais. Il est éternel. Et vous savez pourquoi Dieu nous dit ce genre de message-là? Mais Dieu nous aime tellement. Ézéchiel chapitre 33, Sébastien, si tu peux le mettre, c'est le dernier verset, puis j'arrêterai là-dessus. J'aimerais vous donner ce verset en conclusion même. Voilà ce que dit Dieu. Dis-leur. « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je veux dire, le texte de Matthieu que Jésus a dit tout à l'heure, juste précédemment, hein, où il posait la condamnation. Si on ne vit pas cette parole, eh bien, ce même Dieu nous dit, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Mais je prends plaisir à le voir changer de conduite et vivre. Alors, renoncez à votre mauvaise conduite. Deux fois, il va dire renoncez. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Pourquoi devrions-nous mourir, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, hein, qui sommes dans ce temps de grâce? Pourquoi est-ce que je laisserais le lierre du péché prendre racine en moi? Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir conscience à quel point c'est important pour nous de venir au pied du Seigneur et de chercher sa volonté. De lui dire, Seigneur, parle-moi par ta parole, parce que tout est révélé dans la parole de Dieu. Jésus est la parole qui a été manifestée. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Mon propos ce matin, c'était de vous, quand je dis vous, enfin vous savez bien, quand je dis vous, je m'inclus dedans, donc moi aussi, de me laisser interpeller afin de ne pas laisser le péché encore une fois. Mais ce que Dieu appelle péché, parce que moi j'appelle péché, parce que moi je peux appeler, enfin je peux dire, je peux penser que par exemple, parce que moi je l'ai entendu souvent et certainement vous l'avez déjà entendu vous aussi, c'est... Par exemple, si je prends l'exemple du mensonge, où on dit aussi, il y a un dicton qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Sous-entendu, quelque part, on peut mentir pour ne pas blesser quelqu'un, par exemple. Et puis ça, ce n'est pas grave. Frères et sœurs, laissons-nous interpeller par la pensée de Jésus, pas par nos pensées propres. Et puis, arrachons les racines du lierre, ce lierre du péché. Ne le laissons pas grandir en nous. Parce que si on laisse grandir en nous, ben, je vous remets sur cette image du mur de mon jardin. Hein, on ne voit plus que le lierre, on ne voit même plus le mur. Nous sommes des enfants de Dieu que Dieu aime. Et voilà, je vais juste terminer là-dessus. Hein, je ne veux pas... en dire davantage, mais frères et sœurs, on est appelés, avec ce texte d'Ézéchiel en tout cas, à changer, à renoncer, à arracher cette nature de péché qui va s'accrocher, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il y a des péchés qui nous font plaisir. Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement. Enfin, quand je dis qu'ils nous font plaisir, qu'ils font plaisir à notre nature adamique, n'est-ce pas? Ou alors je ne suis pas comme vous. Rejetons cela. Ne laissons pas ces péchés entrer dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin, frères et sœurs. Et pour, je vous invite à vous lever, on va prier juste ensemble. Seigneur, tu es toi un Dieu rempli d'amour. Et tu nous aimes tant que tu nous dis des vérités. Seigneur, des vérités qui ne sont pas faciles à entendre quelquefois. Mais Seigneur, les vérités, tu dis, elles sont toujours pour notre bien, parce que tu es ce Dieu qui nous aime. Je te prie, Père, ce matin, Seigneur, de nous révéler à chacun, à chacune, si en nous, Seigneur, on laisse des choses qui ne sont pas justes à tes yeux, afin qu'on puisse venir et puisse se repentir devant toi. Je te prie, Père, de nous montrer si notre vie, Seigneur, manifeste ta vie à toi, plutôt que manifester la vie du diable, comme on l'a vu dans un des textes de ce matin. Seigneur, on ne veut pas avoir pour père le diable, mais on désire vraiment que toi, tu sois notre père. Et on a besoin que tu viennes toucher nos vies. Seigneur, fais-le, Seigneur. Et tu vois, dans cette période si compliquée, Seigneur, combien c'est facile pour nous, Seigneur, de se laisser embarquer, de te laisser de côté, Seigneur, de prendre d'autres priorités. Seigneur, viens nous réveiller, Seigneur. Viens nous dire encore tes vérités à toi, Seigneur. C'est toi qui es vérité. Seigneur, c'est ma prière ce matin pour moi-même et pour mes frères et sœurs. Fais-nous briller par ta vérité, pas par notre vérité, mais par ta vérité, Seigneur. Parle-nous encore. Seigneur, que nous puissions vivre cette vraie repentance, que nous puissions vivre, Seigneur, avec horreur du péché, Seigneur. Que nous puissions arracher tout ce qui n'est pas ta volonté, tout ce qui n'est pas ce qui vient de toi, Seigneur. Conduis-nous, Père. Bénis notre communauté. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen.